bonne année 2026. On vous souhaite une année riche en découvertes et en première fois. 18h et déjà c'est l'heure de votre 15 hebdomadaire radiophonique préféré qui s'intéresse toujours aux talents nouveaux. Ce soir encore, on va parler encore plus de nouveaux talents presque au carré puisque mes invités sont réalisatrices et acteurs. Mais avant de commencer, vous êtes plutôt roman historique, roman philosophique, histoire d'amour ou roman de campus? Parce que si vous avez retenu une de ces propositions, vous pouvez lire La récréation est finie, un roman italien paru en septembre dernier, qui est tout cela à la fois et bien plus. Alors, Marcello est étudiant, il se retrouve en thèse de lettres un peu par hasard. Son directeur lui impose de travailler sur un écrivain peu connu, un auteur qui a été terroriste d'extrême gauche et qui est mort en prison. Le roman, c'est d'abord l'histoire hilarante de Marcello, ce Vitelloni moderne, trentenaire qui ne veut pas reprendre le café maternel, thésard pas très sérieux et amoureux dilettante. Dario Ferrari, l'auteur, excelle à dépeindre le monde universitaire italien qui ressemble comme deux gouttes d'eau au nôtre, avec les luttes d'influence entre pontes, les moyens toujours réduits et les mesquineries à tous les étages. Une partie du livre même se déroule à la bibliothèque François Mitterrand et on imagine que l'auteur, lui-même thésard, a fréquenté ces salles et son règlement intérieur relativement cryptique. La récréation est finie raconte aussi l'histoire de ce groupe de jeunes qui 50 ans plus tôt ont pris les armes, enfin l'histoire de ce groupe tel que le voit Marcello dans ses recherches. Avant d'y arriver, Ferrari prend le temps d'installer les personnages et si l'issue est tragique, le gang part plutôt comme des amateurs. On trouve par exemple le récit d'un braquage de banque où on a plutôt l'impression d'être dans un film des années 70 avec Pierre Richard. On est tenu en haleine par ce gros livre qui réserve des surprises et des retournements. Jusqu'à la fin, La récréation finie est un roman qui réussit à la fois d'être drôle et profond, intelligent et joyeux, ce qui, avouons-le, ne court pas les rues. La récréation est finie, donc ça s'appelle, c'est écrit par Dario Ferrari, c'est traduit l'italien par Vincent Reynaud et c'est publié aux éditions du Sous-Sol. Bonsoir Louise Aymon.
Bonsoir.
Bonsoir Guillaume Marbeck.
Bonsoir.
Alors vous êtes l'une réalisatrice et co-scénariste de L'Englouti. Mm-hmm. On va le dire tout de suite, vous avez eu le prix Louis Deluc, ça va?
J'ai pas du tout eu le prix Louis Deluc.
Alors c'est quoi, c'est une...
J'ai eu le prix Jean Vigo et le prix
ah oui,
André Bazin.
Oui, Jean Vigo,
je me suis trompée. Le Louis Deluc m'est passé sous le nez.
Qui l'a eu?
C'est Valentine Cadic pour Le Rendez-vous de l'été, un magnifique film.
Bah, c'est bien, vous n'êtes pas rancunière alors.
Pas du tout, je vais pas tous les prendre.
Et vous Guillaume Marbeck, vous êtes acteur et l'acteur principal. Je ne sais pas si on peut dire principal, c'est quand même un film choral.
Oui, c'est vraiment une chorale, puisque c'est une bande de jeunes qui fait leur premier film dans un espèce de chaos assez joyeux organisé par Jean-Luc, le personnage que j'interprète.
Et donc ça s'appelle Nouvelle Vague, c'est un film de Richard Linklater, et j'ai regardé pour vous deux, les films sont toujours à l'affiche, c'est quand même bien fait, hein, on peut encore les voir. Alors, vous Guillaume, ça fait longtemps que je vous cours après, je dois dire que vous êtes un homme de parole, parce que vous êtes finalement venu, merci.
Ah oui, mieux vaut tard que jamais. Hein.
Vous Louise, je vous ai moins couru après, mais vous avez tout de suite dit oui, donc merci aussi, et je suis très heureux de vous avoir tous les deux, parce que vous portez chacun à votre façon, je trouve, un cinéma, et que j'ai aimé les deux autant. Donc je trouve que c'est formidable de vous réunir. Votre film, donc Nouvelle Vague, parle de cinéma, on va y revenir. Mais avant de commencer, pour la deuxième fois, j'aimerais vous demander, vous, par exemple, à vous Guillaume ou à vous Louise, le rapport que vous entretenez encore aujourd'hui avec la Nouvelle Vague.
Le rapport que j'entretiens avec la Nouvelle Vague, bah moi j'ai bossé dessus pendant 2 ans, donc c'est un rapport
avant,
très très
avant,
proche.
Avant.
Mais avant, c'était quand même l'espèce de garantie qu'il y a toujours un cinéma nouveau à entreprendre, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, quel que soit le moment ou l'année dans laquelle on se trouve, il y a toujours quelque chose de nouveau à faire avec le cinéma et plus généralement avec l'art. Et ce que Louise aussi fait avec son film. Donc voilà, c'est une preuve de plus que le cinéma n'est pas mort, comme Godard nous l'annonçait depuis des années.
C'est gentil. Moi, pour moi, la Nouvelle Vague, c'est vraiment mes années d'université où on étudiait tous les réalisateurs, réalisatrices, mais surtout réalisateurs de la Nouvelle Vague. Et l'apprentissage, justement, que tout peut être défait, toutes les règles du cinéma peuvent être envoyées, explosées dans tous les sens. Et que, justement, c'était
rassurant ou c'est inquiétant, ça ?
Non, c'est rassurant. Parce qu'on se dit que tout est possible et que, en effet, si on regarde les premiers films de Godard, c'est des films entre amis. Donc on se dit que, en fait, il suffit de... Surtout que moi, quand j'étais à la fac, il y avait déjà des caméras numériques, tout ça. Aujourd'hui, en plus, maintenant, il y a les téléphones. Donc en fait, les caméras sont à portée de main et on peut essayer de faire les choses. Il n'y a pas de dogme.
Je me demandais justement, parce que l'un et l'autre, vous devez avoir une trentaine d'années. Je ne vous ai pas demandé vos papiers en rentrant, mais j'imagine que vous avez à peu près une trentaine d'années. C'est quand même un peu le cinéma de vos grands-parents, presque. Ça parle encore à des jeunes, La nouvelle vague, c'est quelque chose avec plaisir à regarder.
Alors en fait, je pense que c'est grâce au fait que ce sont des films qui, comme l'a dit Louise, sont faits avec les histoires et les récits de la jeunesse de l'époque. Et donc c'est assez inspirant pour des jeunes artistes. Je pense pas que tous les jeunes vont voir des films de la nouvelle vague, mais quand on est artiste, c'est quand même une voie par laquelle on essaye de rentrer ou qui nous est conseillée par nos aînés en nous disant « Tiens, regarde ça, ça c'est des choses que tu pourrais faire toi maintenant. » Et donc je pense qu'il y a beaucoup d'artistes comme ça qui découvrent la nouvelle vague. Et après, ça nous suit parce qu'on se dit « Bah oui, mais pourquoi je me bouge pas ? Ils ont réussi à faire des films avec trois bouts de ficelle avant. Ça doit être encore plus possible aujourd'hui. Alors j'ai plus d'excuses, il faut y aller. »
Oui, puis pour moi, la nouvelle vague, c'est l'insolence. Donc du coup, je trouve que ça va bien avec la jeunesse. Mais je m'inscris dans ce que tu viens de dire, Guillaume.
Oui, c'est plutôt donc une force qui vous pousse encore. Il y a vraiment eu un allant, une espèce d'énergie qui continue encore 50 ans après, plus de 50 ans après. Donc.
Ben, en fait, c'est tellement cité par soit des réalisateurs qu'on admire ou des profs qu'on a dans les études qu'après, ça en devient des armes. Moi, je me souviens quand j'étais à l'ESRA, parce que j'ai fait aussi une école de réalisation, quand nos profs nous disaient « Non, tu peux pas faire ça dans ton film, c'est pas possible », on disait « Oui, mais Godard a fait ça dans Nouvelle Vague, enfin dans À bout de souffle ou dans tel ou autre film, donc moi aussi, je peux me le permettre ». Et comme c'était bah, des références qu'ils adoraient, ils n'avaient plus d'arguments et donc c'était un peu notre 49-3 à nous pour dire bah, voilà, je ferai mon film quoi qu'il arrive de ma manière.
Alors justement, Guillaume Arbeck, dans Nouvelle Vague, vous interprétez Godard. Est-ce que c'est impressionnant de savoir qu'on va jouer Godard, qui est quand même une figure du commandeur dans le cinéma aujourd'hui ? À l'époque, c'est un jeune homme qui a votre âge d'aujourd'hui.
C'est ça.
Mais maintenant, c'est quelqu'un qui a une figure, un maître.
Eh bien, déjà, c'est assez impressionnant parce que toutes les personnes qui travaillent dans le cinéma ont entendu parler de Godard et ont un avis déjà propre sur la personne de Godard. Et donc, on sait à peu près qui il est, on sait comment il bouge, comment il parle, comment il respire. Et donc, jouer un personnage comme ça, et c'est le cas aussi encore plus, je pense, pour Jean-Paul Belmondo, que même le public s'en est appartenu. Et
ben, Aubry, c'est assez difficile.
Ouais, Aubry Dulin, qui est formidable dans le film, très joyeux, solaire, voilà, la vibe Belmondo, comme on adore. Et donc en fait jouer des personnages comme ça qui ont déjà existé et qui sont identifiés par certaines personnes, et ben c'est très ça fait flipper un peu parce qu'on se dit on entre dans une arène des jeux du cinéma comme César avec ses jeux et on a tous les gradins qui sont prêts à nous assassiner si on fait un mauvais travail.
Mais comment on fait pour effacer tout ce qu'on a appris sur le personnage pour arriver à retourner aux sources ? Est-ce que vous petit à petit vous avez gommé des gens, j'ai envie de dire, je vais dire comme un oignon, c'est pas très joli pour Godard. Mais est-ce qu'il y a quelque chose comme ça que vous gommez petit à petit des couches qui se sont superposées pour revenir à la quintessence du jeune homme qu'il était ?
Ouais, alors donc dans mes recherches, ce que je me suis imposé comme rigueur, c'était de ne jamais aller au-delà du film À bout de souffle. Donc en fait, toutes les archives, etc., que j'ai consommées, comme une IA que j'ai gavée avec les informations, eh ben, je me suis arrêté vraiment pile à la sortie de ce film pour n'avoir que ce qui s'était passé avant, et donc me concentrer sur ce jeune homme qui n'avait pas encore fait de long métrage et qui désirait qu'une chose, c'était d'enflammer le cinéma avec ses films.
Donc par exemple, si vous avez relu La correspondance avec Truffaut, vous avez arrêté à ce moment-là ?
Ah bah oui, bien sûr. Et puis ils correspondaient pas trop à l'époque qu'ils se voyaient.
À l'époque ils se voyaient, oui. Donc ça c'est gênant. Il y a pas de réseaux sociaux. Oui, et puis même c'est après qu'ils se sont écrits.
Ils s'écrivaient de temps en temps quand même. Hein. À l'époque c'était les textos, hein. les lettres. Ça arrivait encore plus vite.
Quand on vous voit dans le film, c'est assez saisissant parce qu'on croit voir Godard jeune. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Oui. Moi j'ai été saisie par ça. Mais ce que j'ai aimé aussi, c'est que il y a à la fois l'imitation et on voit l'acteur. Toi, Guillaume, au travail. C'est ça que j'ai aimé, c'est qu'il y a les deux en même temps, et c'est ça que j'ai trouvé très beau.
Merci. Ben,
justement, comment on fait ? Parce que quand on vous voit, moi j'ai été voir vos photos hein, avant de vous croiser ce soir, j'ai regardé vos photos d'avant, parce que j'étais persuadé d'avoir presque vu Godard. Dans le... Et je me disais, mais je lui ressemble pas. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où on se dit, mais comment je vais faire, je lui ressemble pas ?
Ah bah,
est-ce
c'est
que
sûr.
Ça vous a arrêté ou pas du tout ?
Ah, mais ça m'a complètement arrêté le premier jour de tournage. Je me suis dit, mais je suis forcément démasqué à ce moment-là. Là. Dès qu'ils ont allumé les caméras, ils vont se rendre compte. Et en fait, finalement, ça allait. Le deuxième jour de tournage, ils ne m'avaient pas encore viré, donc je me suis dit que ça passait. Et puis, plus les jours avançaient, plus ça marchait. Donc là, je me suis dit, je dois faire le taf. En même temps, ce n'est pas à moi de juger, c'est un peu. Voilà, on est tous les plus mauvais juges de soi-même, puisqu'on est la seule personne qui se voit pas à l'endroit. Déjà, bah, quand tu te lèves le matin, tu te vois dans le miroir, déjà t'es en inversé. Donc, à partir de ce moment-là, c'est très difficile de se juger.
Mais vous avez alors comment vous avez travaillé l'image? Vous avez
l'image, on a dû me creuser les golfs pour faire la calvitie. On a mis mes.
Fallait me prendre, moi je les avais.
Bah ouais, ça aurait été plus simple. Et j'aurais pas évité de porter un bonnet pendant un mois et demi. Mais aussi, donc ils m'ont donné des lunettes de soleil, donc il fallait que je joue sans mes yeux, et les yeux c'est l'arme fatale pour un acteur, pour transmettre de l'émotion. Donc il fallait que j'invente d'autres manières de véhiculer de l'émotion, avec mes sourcils, avec mes gestes, avec le rythme dans lequel j'évolue physiquement et oralement. Et puis il fallait aussi apprendre à marcher sur les mains, puisque Godard marchait sur les mains, et il y a une scène dans laquelle je dois faire le poirier en plein café, donc avec beaucoup beaucoup de dangers autour, des cendriers qui fument, des chaises qui volent, et voilà.
C'est dur à apprendre de marcher sur les mains?
Ah bah je l'ai réappris parce que je savais un peu le faire, mais d'apprendre à marcher sur les mains pour le cinéma, c'est encore plus dur, puisque en fait, il faut être capable de faire beaucoup de prises à la suite sous différents axes, si besoin est le jour du tournage.
Je vais peut-être apprendre à marcher sur les mains pour la radio, c'est beaucoup moins dur parce que personne ne le voit, donc je peux dire ce que je veux. C'est ça, de faire un métier d'escroc. Comment vous êtes retrouvé dans ce film? Parce que voilà, si j'ai bien compris, vous destiniez pas à être acteur.
Non, moi j'avais les velléités d'être à la place de Louise, donc elle a réussi avant moi d'être réalisateur. Et en fait, j'ai fait tous les métiers du cinéma pour savoir comment parler à chaque personne d'une équipe de cinéma pour faire le meilleur film possible. Et quand j'étais aux États-Unis pour finir mes études, je me suis rendu compte que j'étais un très mauvais directeur d'acteur, parce que comme un cheval, quand on tire à droite et qu'il va à gauche, c'est que ça va pas du tout. Et donc je me suis dit, il faut que je me forme. Je me suis formé un peu à l'acting, et après j'ai posté mes photos et mes vidéos sur internet parce que j'avais bien aimé ça, dans l'espoir que si jamais quelqu'un avait besoin de moi, quelqu'un comme ça, on puisse m'appeler. Et c'est là que Stéphane Battu, le directeur de casting du film, est tombé dessus et m'a appelé pour me demander si je voulais bien passer des essais. Moi j'ai pensé que c'était une arnaque complète. J'y suis allé avec un couteau dans la poche, et en fait, 6 mois plus tard, ils m'ont rappelé et ils m'ont dit « Bah, Richard est là à Paris, est-ce que tu veux toujours le voir ? Si oui, dans 3 jours, on a besoin de toi, entre 8h et 18h. » Et en fait, ils m'ont fait passer 10 heures de casting, 25 pages de texte à apprendre, et j'ai dû passer les castings avec 10 personnes différentes. Et à la fin de la journée, ils m'ont donné le scénario. J'ai regardé dans les yeux la productrice, je savais pas qui c'était, et je lui ai dit « Mais... vous êtes sûr que vous avez le droit de me donner ça ?» Elle me dit « Mais enfin, je suis la productrice, s'il y a bien une personne qui peut vous donner ça, c'est moi. Allez, barrez-vous avec le scénario et puis on en reparle. » Et donc, 2 semaines plus tard, ils m'ont rappelé en me disant que c'était bon, que j'avais le rôle.
Parce que vous êtes photographe.
Et oui, voilà.
Parce que j'ai vu que vous aviez une très bonne note sur un site connu, vous avez 5 sur 5 avec plus de 100 avis, bravo.
Ah ouais, merci.
Bravo.
Ouais, mais pour l'instant, je n'ai pas refait de photos depuis le tournage du film, parce que mon esprit était trop pris par la promotion du film. Et j'espère, comme Kubrick, arrêter la photo après mon premier film et continuer comme ça sur une belle lancée.
Mais moi, je rebondis sur ce que vous disiez juste avant, sur le fait que c'était difficile de diriger les acteurs quand on disait « va à droite, il va à gauche ». Faire prendre une photo, c'est pas simple non plus. Voilà. Vous arrivez mieux, ça?
Eh ben, justement, grâce à tout ce que j'ai pu faire comme direction, enfin comme jeu d'acteur, j'ai pu comprendre comment on parlait à quelqu'un pour qu'il aille quelque part. Et c'est d'autant plus dur pour la photographie, parce qu'on n'est pas forcément en train de photographier des gens qui connaissent ça. Ça peut être des avocats, des banquiers ou des médecins. Et donc, il faut les emmener aussi assez facilement, assez simplement vers là où vous avez envie d'aller.
Et vous étiez heureux comme photographe, ou vous étiez un peu frustré de ne pas faire de cinéma?
Ah oui, j'étais très heureux, et puis j'ai quand même des facilités dans cette partie du cinéma, si on peut dire, puisque je pense que c'est à la porte d'entrée. Moi j'étais très heureux. J'aurais pu très bien continuer à faire photographe, mais bon, si on me propose de faire du cinéma, je ne vais pas dire non.
Vous auriez pu être photographe de plateau?
Ah oui, j'aurais pu, mais bon.
C'était un peu triste d'aller faire...
Il ne faut pas parler, il faut être silencieux, et ça, bon,
c'est
moi j'aime bien
vous.
Parler.
T'as fait des photos sur le tournage de Nouvelle Vague?
Alors j'aurais beaucoup aimé, mais j'avais même pas le temps d'en faire.
Ah oui, j'imagine.
J'avais un appareil photo dans ma banane que j'apportais tous les jours, et elle a pris 0 photo.
Ah oui. Est-ce que pour le poser la question autrement, est-ce que le fait d'avoir fait de la photo, ça aide à jouer? Parce que vous savez où est la caméra, ce qu'on va voir.
Énormément. Énormément, parce que en fait, ça permet de savoir comment placer son visage pour ne pas être trop frontal, pour que ça soit pas trop évident, et en même temps ne pas être trop de dos pour qu'on voit ce que vous faites. Et puis aussi de connaître les valeurs de plan, c'est assez important de savoir voilà.
Qu'est-ce que c'est une valeur de plan?
Quand je m'adresse au chef-op, je lui dis alors t'es au combien, et il me dit 50, 100, on dirait un code d'espion, mais en fait c'est la taille de l'image en millimètres pour l'objectif, et ça permet de savoir si on est dans un plan large ou dans un plan serré. Et donc si on est dans un plan serré, là, c'est le moment de sortir les larmes, quoi.
Voilà. Ça vous angoisserait, vous, d'avoir un acteur qui maîtrise comme ça la caméra, Louise Aymon ?
Ah non, pas du tout. Je pense que les plus acteurs sont en conscience, plus ils sont détendus. Donc chacun, il y en a qui ont besoin de absolument rien savoir. Ils veulent être dans le flou parce que ça les rassure. D'autres ont besoin d'avoir l'illusion de contrôler. Et du coup, ça les rassure. Donc du moment qu'ils sont détendus, moi, tout va bien.
Et est-ce que vous, pendant le film, il y a des moments où vous disiez « j'aurais quand même bien aimé le réaliser, ce film-là, parce que moi, j'aurais pas fait ça comme ça ?» On va pas vous fâcher avec Richard Linklater, mais...
Bah, j'aurais bien aimé avoir un budget comme ça pour faire un film comme ça, bien sûr, mais bon, j'en suis pas encore là, donc il y a même pas d'envie de ça, enfin, de se comparer. En plus, Richard, moi, c'est un réalisateur que j'adore. Et puis, de toute manière, quand j'étais plus jeune, je travaillais sur un film qui s'appelait « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?» que pas mal de gens ont vu. Et il y avait des moments, en tant qu'assistant accessoiriste, je me disais « Non, mais le plan, je l'aurais fait comme ça. » Et mon chef m'a dit « Oui, mais c'est pas ton job. Là, ton job, c'est d'apporter les stylos sur la table. Et s'il n'y a pas de stylo sur la table, t'es viré. » Donc,
ah
voilà.
Oui. Ouais, une espèce de hiérarchie et de chacun à sa place.
Et en fait, quand on découvre les autres métiers, parce qu'on les fait plus tard, on découvre qu'en fait, il y a tellement de problématiques dont on n'a pas conscience quand on est dans l'extérieur, qu'en fait, bah, peut-être qu'ils font ce plan et qu'en fait, c'était exactement ce qu'il fallait faire.
Mais en plus, moi, pardon, je trouve que le métier d'accessoiriste ou assistant, c'est génial. Pour apprendre, être sur le plateau, comprendre, c'est tellement proche de la mise en scène. C'est vraiment la personne qui va décider et placer tous les objets qui sont dans le plan, faire tous les effets. Si on allume une cigarette, si tu dois changer de lunettes ou s'il y a un feu dans la cheminée, si je dois parler de mon film, et des chandelles à allumer et à rééteindre, etc. C'est eux qui font tous les effets et tout, et qui placent tous les objets. Et c'est passionnant de devoir réfléchir avec ça, à ça avec le réalisateur, la réalisatrice ou avec le chef-op. C'est génial comme apprentissage.
Vous êtes d'accord ?
Ouais, totalement d'accord. Et je remercie Olivier Seller et Benjamin Hess. Donc Olivier, c'était l'accessoiriste sur le film Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? Et Benjamin, c'était le producteur qui m'a permis d'intégrer ce film. Je les remercie parce que c'est là que j'ai tout appris, encore plus qu'en école de cinéma, d'être confronté au réel. Et puis, dans une équipe de cinéma, tout le monde a besoin de scotch et d'un briquet. Alors quand t'es accessoiriste, t'as tout ça en permanence sur toi. Donc tu parles à tout le monde et tu peux connaître...
Vous êtes l'homme clé,
vraiment...
quoi.
Ah ouais. L'homme briquet, plutôt.
Vous aviez conscience pendant le film alors je parle de vous, mais c'est un peu un vous collectif, de tourner un film avec une telle énergie, parce que j'imagine quand on fait un film, je suis même sûr, vous retournez les scènes plusieurs fois, ça va être parfois laborieux, sans se fatiguant à refaire. Est-ce que vous aviez conscience de ce qu'on allait voir, ce film plein d'énergie qui est à la fois un film sur le cinéma, qui est surtout un film sur la jeunesse et sur l'élan de la jeunesse.
Ben, on en avait conscience parce que Richard nous répétait en permanence qu'on était en train de faire un film sur des jeunes qui savent pas s'ils vont devenir connus ou pas, mais ils sont en train de faire leur premier film et ils sont en train de réaliser leur rêve quelque part. Donc voilà, c'est comme une colonie de vacances, une bande joyeuse qui fait un projet...
Un peu des petits... Un peu pirate aussi par moment quand ils doivent aller...
Voilà, c'était un peu l'idée de voler à la réalité, de l'intégrer au film et de la faire rentrer dans l'écran pour qu'après les spectateurs puissent en disposer. Et d'ailleurs, dans le film de Louise, on voit que la nature est captée d'une manière assez magnifique. Et en plus, c'est presque en parallèle de notre film, c'est une autre époque aussi. Et donc, recréer une époque et faire du vrai avec ça, c'est quand même assez incroyable.
Ça vous fascinait, ça, vous dire que vous étiez, par exemple, à la fin, dans le quartier de Montparnasse, ça doit être la rue Campagne Première, si je ne m'abuse, d'être au milieu du monde d'aujourd'hui et de retourner. Et vous étiez en 1960 au milieu de gens qui vivent à un autre.
Oui, c'est incroyable parce qu'en fait, finalement, les équipes, elles ramènent des voitures, elles ramènent des costumes. Il y a des piétons qui sont des figurants, mais en fait, c'est censé être juste des passants. Donc, ils ne sont pas censés nous remarquer plus que ça. Et puis, quand on est en train de tourner, on se rend compte que la route, elle est complètement bitumée et qu'à l'époque, il y avait des pavés. Et donc, en fait, même ça a changé. Il va falloir le réintégrer et que ça fasse pas effets spéciaux, qu'on le voit pas. Et c'est hyper réussi dans le film, d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup d'effets spéciaux, mais on les voit pas. C'est comme si on avait juste sorti une caméra dans la rue et qu'on avait filmé comme ça et c'est tout.
Mais en fait, on a travaillé, dans mon film et dans Nouvelle Vague et dans L'Englouti avec la même boîte d'effets spéciaux.
Ah ouais ?
Ouais, c'est la CGEV, la Compagnie Générale des effets visuels, et ils sont très très forts parce que moi aussi j'ai des effets spéciaux qui ne se voient pas.
Bah oui, parce que j'allais dire, il y a des effets spéciaux dans votre film.
Et ouais. Et des fois, il y a des endroits où là, il n'y avait pas de neige, on a rajouté de la neige. Enfin, il y a énorme. S'il y a des pas dans la neige de personnages, parce qu'il y a.
Oui, c'est ça que je m'étais demandé.
L'équipe qui a marché, on efface. Et en fait, ils savent faire, cette société, des effets spéciaux qui ne se voient pas, qui sont hyper naturels quand on recherche ça, dans ce type de film. Ils sont très forts.
L'accueil depuis du film, vous avez été dans plusieurs pays, vous avez été aux États-Unis.
Oui, si je m'abuse,
vous étiez à Los Angeles, vous étiez à Au Golden Globe, non.
Il était au Golden Globes en nomination pour la meilleure comédie. C'est One Battle After Another qui a remporté le prix. Bon,
ils se sont trompés, mais ça arrive.
Un bon film. Hein. Et donc, oui, on a fait beaucoup de films, enfin, de festivals, et le film est allé un peu autour de la planète, et je suis assez impressionné. C'est vrai que nous, on avait l'impression de faire notre petit film, comme Godard à l'époque, et après, la répercussion est assez énorme, c'est comme un grand coup dans un tambour.
Eh bien, on écoute un peu de musique, puisque vous parlez de tambour.
Je leur ai donné ma vie à ces garçons. Je leur ai donné à tort et à raison. Je leur ai donné mes armes et mes saisons. Je leur ai donné mes armes, mes munitions. J'ai arrosé les plantes avec toutes mes larmes. J'ai accepté la tension, sonné l'alarme. J'ai laissé couler sans faire trop de vacarme. J'ai laissé ces garçons me tuer sans en faire un drame. Alors où sont-ils pas, ces garçons? Je sais qu'ils ont décidé de changer d'horizon. Ils ne reviendront jamais à la maison. Il n'y a plus rien à voir ici, c'est la défloraison. Alors où sont-ils pas, ces garçons? Je les ai pourtant aimés à en perdre la raison. Mais il n'y avait rien, ce n'était que des illusions. Je ne sais rien de l'amour, voilà la conclusion.
À tous ces garçons, Nour. Ça, c'est une coupure de chanson. Et c'est là qu'on vérifie que Pablo, qui est de retour, est un réalisateur aguerri de cette émission. Merci, Pablo. Guillaume Marbeck, dans une interview, vous avez dit que l'acteur et réalisateur... Attention, hein, ça rigole pas, là, j'ai préparé. Parle deux langues différentes. Un réalisateur parle en termes de résultat, un acteur plutôt en termes d'action. Alors, Louise et moi, vous parlez en résultat ou en action ?
J'ai rien compris. Vous pouvez me réexpliquer ?
C'est à lui, hein. C'est lui qui
en fait,
dit.
Moi, je disais que justement, quand je ne savais pas diriger les comédiens, je me suis rendu compte que le réalisateur, il parle en termes de résultats. Je veux que tu pleures. Je veux que tu sois triste. Je veux que tu sois énervé. Et l'acteur, lui, il parle en termes d'action. C'est-à-dire...
Tu veux que je pleure comme ça ?
Non, c'est plus... j'ai envie de lui montrer à quel point c'est injuste. Et peut-être que je vais finir par pleurer ou peut-être que je vais finir par m'énerver, mais j'en sais rien.
Oui, bah ça c'est vrai. Il y a des... Je pense qu'en plus, dire essaye d'être drôle ou fais ça, il n'y a rien de pire. En fait, c'est des injonctions paradoxales. Le meilleur exemple pour moi, c'est dans Le Garçu de Piala. On voit Géraldine Payas qui pleure. Et en fait, j'avais écouté le récit de ce tournage. Il ne lui a pas du tout demandé de pleurer. Il s'est assis face à elle et il lui a raconté une histoire terrible. Et elle s'est mise à pleurer et son émotion est magnifique. Donc c'est vrai qu'il y a plein de chemins. Et c'est vrai qu'en dirigeant ou en étant acteur, en passant par l'intérieur, on peut comprendre ça et trouver des biais pour diriger sans commander.
Un peu manipulé aussi là.
Bah pas forcément. Je pense pas que. Enfin, c'est la disponibilité de l'acteur. Je pense que Géraldine Payas, je vais pas parler à sa place, mais elle a très bien compris ce qui est en train de se passer.
Alors avec vous, Louise Aymon, on va parler de votre premier long métrage, L'Englouti. Ici, souvent, on reçoit des écrivains et j'aime bien souvent leur demander. À quel moment ils savent que le livre, le précipité chimique, le moment où la réaction se fait. Vous, c'est quoi qui vous a fait démarrer ? C'est une histoire ? J'ai plutôt l'impression que c'est des images que vous avez eu envie de filmer.
Oui, c'est vrai, vous avez raison. En fait, c'est parti quand même de récits familiaux, parce que ma mère est issue de générations et générations d'institutrices, d'instituteurs qu'on envoyait pour leur premier poste très loin, en montagne, là où personne ne voulait aller. Et en fait, on m'a transmis des récits à l'oral et à l'écrit. Et dans ces récits écrits, qui sont d'ordre anthropologique ou de fiction, il y a des images qui m'ont obsédée depuis l'adolescence et qui ont en effet été le point de départ du film. Dans le récit anthropologique de mon arrière-grand-tante aimée en 1922, commandé par la revue Géographie Alpine, elle raconte son hiver d'institutrice où elle va observer les coutumes, les habitudes, les événements dans le village, les niveaux de neige, les avalanches, elle raconte tout. Et elle raconte que quand le soleil passe entre les cimes, à un moment précis de la journée, chaque jour, parce que le soleil est bas et il passe pas souvent le bout de son nez à travers les montagnes, les hommes sortent des maisons et vont, comme ils disent, écouter le soleil. Et ils se prélassent au seul endroit plat du village, qu'on est en montagne, qui est un petit pont déblayé. Et cette image-là, d'imaginer une femme en pleine pulsion scopique, en train d'observer les hommes prélassés dans la lumière magique qui se reflète sur la neige, ça a été une des images fondatrices du scénario. Et l'autre,
c'est une scène forte du film.
Merci. Et puis l'autre, c'est mon grand-père qui, lui, nourri de ces mêmes histoires, avait écrit une nouvelle, imprimée et éditée à compte d'auteur, on va dire, que j'aime beaucoup, qui s'appelle La bière sur le toit. Et c'est l'histoire d'une institutrice dans un petit village au début du siècle, donc toujours la même situation. L'hiver, le doyen du village casse sa pipe, on ne peut pas l'enterrer parce que le sol est gelé, et on décide de le mettre sur le toit de l'école, parce que ce sera plus agréable pour lui d'être accompagné jusqu'à la fonte des neiges par les rires et les jeux des enfants, et l'institutrice est terrorisée. Et l'idée de filmer un cercueil sur une maison au milieu des montagnes millénaires enneigées, je trouvais ça à la fois terrifiant et cocasse, et du coup c'est aussi une image que j'avais envie de filmer. Et après, j'ai appelé mon amie Anaïs Télène, réalisatrice et scénariste, et je lui ai dit, voilà, il y a ces deux images-là, voilà le déroulé de l'histoire, essayons de construire quelque chose autour de ces images.
Mais vous-même, vous avez grandi à la montagne parce qu'on sent que vous la connaissez, que vous l'aimez, j'ai presque envie de dire. C'est presque le personnage principal de votre film.
Alors, je suis une fausse montagnarde parce que j'ai grandi à Lyon. J'ai un petit bouquetin
sur
mon pull.
C'est très radiophonique.
Disons que la famille de ma mère, mon père, ce sont des Bretons, ma mère, ce sont des montagnards des Alpes. Donc disons que
il y avait ces récits-là dans la famille.
Et puis j'y ai passé 3 mois par an depuis l'enfance, parce qu'on a une maison de vacances là-bas. Donc je la connais, je la pratique, mais j'y ai pas grandi.
Est-ce que le choix de l'actrice a été déterminant après ? Aimée, donc dans le film, une jeune institutrice qui arrive dans un village des Alpes pour être institutrice en 1899, c'est
Galatea Bellucci.
Voilà. Est-ce que ça ne pouvait être qu'elle, parce qu'elle-même est... Elle n'est pas une montagne, mais elle se fond au début. Elle se fond dans le décor. Oui, je ne sais pas comment dire ça. Elle a quelque chose de la pureté de la montagne, et en même temps quelque chose d'ancestral, et en même temps très jeune. Elle est très particulière. C'est peut-être comme vous l'avez vu. Peut-être si je la voyais en vrai, je ne sais pas.
En fait. Moi, quand j'ai écrit le scénario, je pensais à personne. Parce que je savais pas quand est-ce que j'allais faire mon film, si j'allais le faire, si on prend 8 ans à le faire, bah, entre-temps, l'acteur ou l'actrice n'a plus l'âge. Donc, je l'ai écrit en pensant à une actrice qui aujourd'hui n'a plus l'âge du tout, parce que je pense qu'elle a plus de 60 ans. C'est Catherine Mouchet dans Thérèse d'Alain Cavalier. Parce que ça m'aidait à écrire les dialogues, d'entendre la musicalité de sa voix. Voilà, cette actrice très particulière que j'adore, Catherine Mouchet. Et c'est vrai qu'en découvrant Galatea Bellucci dans l'apparition de Xavier Giannoli, où c'est une histoire assez proche de Thérèse, parce que c'est voilà, une fille qui a la foi, qui a une relation très puissante.
C'est dans les montagnes, si je ne m'abuse.
Non,
je confonds.
Pour moi, Thérèse s'est tournée en studio.
Non, je parle de l'apparition.
Ah oui, tout à fait, vous avez raison, c'est dans les Hautes-Alpes, c'est à Gap, ouais, vous avez raison. Disons que j'ai pu me projeter et j'ai du coup demandé à rencontrer Galatea. Et c'était une évidence tout de suite pour les raisons que vous avez soulignées.
Et elle a tout de suite dit oui, elle aussi ? Parce qu'elle aurait pu dire non.
Elle aurait pu dire non, c'est vrai, mais elle a dit oui, j'ai de la chance.
Ça aurait pas pu se faire si elle avait dit non ? Non, ça vaut, on sait jamais.
Non, tout le monde... Enfin, je veux dire, un film, c'est un film, ça se construit avec qui veut. Hein. Tout le monde aurait pu... je sais pas, il y aurait eu un casting. En tout cas, j'ai eu de la chance parce que j'ai eu un coup de cœur. Et j'ai pas eu le cœur brisé, j'ai pas dû reconstruire avec quelqu'un d'autre. Mais je veux dire, si j'avais mon film, je l'aurais fait quoi qu'il en coûte.
Il y a un point commun entre vous deux, c'est que c'est deux récits de jeunesse aussi. C'est que c'est à chaque fois... Alors là, c'est pas la jeunesse des années 60, mais c'est l'histoire d'une jeune femme qui arrive dans un endroit où elle n'est pas attendue. On pourrait presque dire que c'est aussi ce qui arrive à Jean-Luc Godard, qui arrive dans un milieu qui ne l'attend pas forcément, le cinéma. Vous dites que vous êtes appuyé sur des témoignages. C'est ce qui est terrible, c'est cette solitude qu'elle doit ressentir. C'était ça que vous vouliez raconter, sa solitude dans cet univers. Parce que alors, les villageois ne sont pas très accueillants non plus.
Moi, ce qui m'a inspiré, c'est en effet les héros solitaires, les cow-boys, les westerns.
Ah, vous la voyez comme un cow-boy ?
Ouais, c'est comme ça que je la voyais. C'est-à-dire une femme qui arrive avec sa mule dans les grands espaces, qui arrive dans une communauté fermée où on la regarde derrière les fenêtres comme ça.
Toute petite communauté en plus où elle peut pas se faire beaucoup d'amis.
Ouais, une toute petite communauté dans laquelle elle va devoir s'imposer. Donc cette solitude, elle allait en effet avec le personnage et les grands espaces et sa mission. C'est une missionnaire laïque, une institutrice qui en 1900 vient ouvrir une école publique dans une étable. Loin de tout et qui veut mener à bien sa mission, qui pense arriver au pays de l'ignorance parce qu'elle a cette espèce de morgue, de sentiment de supériorité parce que sa mission est belle et magnifique. Et en fait, c'est le frottement entre ces deux systèmes de croyances qui fait le film.
Vous faites le choix de ne rien dire d'elle. C'est volontaire ? Forcément, c'est volontaire.
En tout cas, je voulais vraiment...
On ne sait pas d'où elle vient. Elle a peut-être un mari ailleurs, on pourrait imaginer. Ou je ne sais pas, peut-être une vie, des parents. On ne la voit jamais. Ben, évidemment, elle ne téléphone pas puisqu'on est en 1899. Non, mais on réalise aussi ce que ça veut dire. Je trouve dans votre film, d'un seul coup, on réalise ce que c'était d'être aussi isolé. Je sais pas.
En fait, j'aimais bien qu'elle apparaisse de la forêt, qu'il n'y ait pas de scène préliminaire où on l'imaginerait dans son école normale en train d'avoir son affectation. Parce qu'après, elle discute avec les enfants lui posent des questions pour savoir d'où elle vient, donc elle dit qu'elle vient d'une ville, loin du village, on a quelques infos comme ça. Elle ouvre un cadeau que ses parents lui avaient mis dans sa malle, où elle a des pâtes de coin, et ils lui disent « la révolution ne se fera pas sans un peu de sucre », écrit sur un petit mot. Donc je pense que par là, on peut comprendre qu'ils sont probablement eux-mêmes républicains, instituteurs, voilà. Donc c'est par touche. Mais je trouvais que c'était pas utile. Je l'ai à un moment écrit cette scène pour cette prologue. Mais en fait, il y avait quelque chose de moins mystérieux. J'avais envie qu'elle apparaisse comme dans Bernanos de la forêt.
Il y a quelque chose du conte, du mythe dans votre film. Et c'est vrai qu'on l'a de cette façon-là aussi. Elle est plus irréelle. Enfin, elle est à la fois très réelle. Irréelle, c'est pas le mot. Je cherche le bon mot.
C'est ça. En fait, ça flirte avec le surnaturel et le début de Nosferatu, c'est la même chose. Donc, c'est vrai que je voulais tout de suite inscrire le film et dans un réalisme. On est presque dans une chronique au début, dans le réalisme et en même temps dans les débuts du conte, dans les débuts des Hauts de Hurlevent. Voilà. Qu'il y ait déjà quelque chose de l'ordre du gothique ou du surnaturel qui s'inscrive dans l'histoire.
Il y a ce film, je ne sais pas si vous l'avez vu, d'une réalisatrice anglaise, je crois, qui s'appelle Hurlevent, qui se passe, mais vraiment dans le paysage du nord de l'Écosse,
oui.
Très aride. Et votre film y fait penser. Donc c'est,
oui, oui. Bah, c'est une très grande réalisatrice.
J'ai oublié son nom.
Mince, tout d'un coup, bon, bref, celle qui a
ça
fait.
Ça s'appelle Hurlevent, en tout cas. C'est pas la version hollywoodienne où ils habitent presque dans des châteaux, alors que là, on voit vraiment la lande avec le vent. Et là, il y a ça. Il y a aussi la nature, la dureté de la nature. Et puis l'érotisme de René Descartes. On n'en dit pas plus. On n'en dit pas plus. On laisse les gens la découvrir. Il y a de l'érotisme chez René Descartes.
Bah, grâce à cette scène, peut-être.
Vous avez vous-même nourri une réflexion sur l'acte d'enseigner, parce qu'on voit dans votre film, c'est à la fois quel point c'est un acte généreux et autoritaire.
Oui, en fait.
C'est un peu comme diriger, hein.
Tout à fait. C'est-à-dire que le personnage d'Aimé, l'institutrice, elle arrive, elle a aucune expérience. Donc j'aimais bien qu'elle arrive avec des concepts, des choses qu'elle a apprises par cœur. Je demandais à Galatea Bellugi de jouer en récitant un petit peu pour qu'on sente qu'elle a bien appris sa leçon. Et en fait, elle a que de la théorie, pas de pratique. Et qu'elle se trompe, qu'elle fasse des faux pas, qu'elle, du coup, après, elle se soit de mauvaise foi. Et je voulais que peu à peu, elle avance et qu'on voit sa réflexion, qu'elle se dise, en fait, si j'incluais leur culture dans mon enseignement, est-ce que ça marcherait mieux ? Donc c'est ce qu'elle essaye de faire, puis elle fait encore un faux pas. Voilà, la réflexion sur l'enseignement, c'était celle-là, c'était comment on rencontre l'autre.
Eh bien, on va l'écouter.
C'est comme si on avait étalé la planète Terre sur un grand papier pour pouvoir la voir tout entière. Donc, en bleu, c'est la mer. Et le reste, ce sont les pays. Et nous, regardez, nous sommes ici.
Mais c'est tout petit, là.
C'est tout petit.
Où est la Prusse?
Tu connais la Prusse? Ici.
La Californie.
La Californie, le pays du caca.
Non. Mais Lottie, tu en sais des choses.
Et l'Algérie?
L'Algérie est là. Connais-tu d'autres pays?
On y était là. Vous entendez, vous revoyez les images, vous, ça vous évoque quoi, vous, quand vous réécoutez cet extrait? Alors, j'avoue que pendant l'extrait, je vous ai parlé, je suis
oui,
pas sympa.
En fait, on cherchait le nom de la réalisatrice de Hurlevent, c'est Andrea Arnold, la très grande Andrea Arnold. Moi, quand j'entends mon film sans le son, c'est
sans, l'image.
Sans l'image, pardon, c'est que je revois le tournage, j'arrive plus à me projeter dans le film. Je revois le tournage, voilà. C'est un moment très particulier. En plus, cette scène, c'était avec les enfants, diriger les enfants, c'est très particulier.
Que c'est ce qu'il y a de plus dur
Non, en fait, eux, ce qu'il y a de plus dur, je pense, c'est le casting. Donc, Marie-Cantet a fait un long casting. Et en fait, ça se passe au casting avec les enfants. On voit tout de suite ceux qui ont cette nature de savoir, comme ceux qui jouent dans leur chambre tout seuls et qui savent très bien, eux, ils y croient eux-mêmes. Et surtout, les enfants, ce qui est génial, c'est qu'en 48 heures, ils sont professionnels. Ils ont compris toutes les règles. Et... Non, c'est pas difficile de les diriger. Il faut trouver une méthode adaptée à chacun.
Il faut qu'on parle d'Émile Sornin, qui est le compositeur de la bande-son, qui, me semble-t-il, est un personnage du film. Comment vous avez travaillé avec lui? D'abord, vous le connaissiez avant?
Oui, Émile Sornin, on a travaillé ensemble sur mes documentaires, sur les pièces de théâtre. Il a fait beaucoup des bandes originales de mes précédents travaux. Et là, en fait, oui, je lui ai fait travailler pour le film à partir du scénario, pas à partir des images, parce que j'avais besoin de musique pour une scène de bal qu'il y a dans le film, que je voulais aussi que ce soit, enfin, je voulais que ce soit aussi lui qui compose cette musique-là. Et arriver en montage avec déjà beaucoup de choix, de musique, pour pouvoir monter avec, je trouve ça très dur de faire la musique à la fin du montage, parce que c'est tellement lié. Donc, comme on se connaissait bien, voilà, on s'est mis d'accord sur un style où je lui parlais de cette vielle à roue, un instrument hypnotique qui est joué par un des personnages du film. Il est parti de ça, d'instruments folkloriques détournés, bricolés. Et d'un hommage à Ennio Morricone avec des voix scandées.
Oui, parce qu'il y a une scène, on ne va pas trop en dire, mais c'est quasiment pas une rave party, je ne sais pas comment dire. C'est vraiment pas le 31 décembre qu'on rêve d'avoir forcément.
Bah, c'est une rave party d'il y a 100 ans, quoi. C'est comme ça qu'il faisait.
C'est comme ça que vous l'avez vu?
Moi, oui.
Scène de transe. Et quand vous lui avez dit écris-moi une scène de transe à la vielle, il a tout de suite dit ok.
Ah oui, oui, bah, c'est quand même sympa.
Comment on travaille dans la neige? Parce que j'ai lu que vous aviez travaillé à 2000 mètres pour avoir de la neige. Mm-hmm. Ça doit vous être donné beaucoup de complications pour un premier film.
Oui, mais moi, je suis plus à l'aise à la montagne que si je devais faire un film dans un appartement avec trois acteurs. Disons que j'avais plus d'idées là-haut qu'en bas. Du coup, pour moi, c'était pas si difficile. C'est juste que, en effet, bah, la météo change tout le temps. Il fait froid, mais on était bien entourés avec une équipe régie formidable. Donc, honnêtement, tout s'est bien passé.
Il y avait des chauffages cachés.
Alors, dans les intérieurs, il y a des chauffages cachés parce que les maisons sont mal isolées. Et nous, bah, on a des gants, on a voilà, des petits gants chauffants pour certains, des petites chaufferettes qui nous sont distribuées. Et puis, comme on bouge beaucoup, c'est pour les acteurs, c'était plus difficile parce qu'ils sont souvent un peu statiques, ils attendent, mais ils attendaient dans les maisons au coin du feu. Nous, on est toujours dans l'action, donc honnêtement, ça allait. C'est quand même exaltant, le grand air.
Guillaume Marbeck, vous aimeriez tourner dans la montagne ?
Ah oui, j'adorerais, mais là, je vois plein de problèmes qu'il faudrait surmonter. Par exemple, je ne sais pas comment vous avez fait, s'il y avait des batteries ou des choses électriques, parce que l'électricité déteste le froid. Et en plus, là-bas, je ne suis pas sûr qu'il y avait du courant. Donc,
Oui, en effet, il n'y avait pas de courant. Donc, on était sur batterie, sur groupe électrogène, un groupe électrogène qui était planqué sous la neige. Mais après, ni moi, ni les acteurs ne se préoccupions de ça. Il y avait une chef électro. Voilà, une chef électro extraordinaire qui avait absolument tout préparé. La première assistante caméra aussi, elles avaient fait des tests dans le froid, dans des frigos en région parisienne. Enfin, tout avait été prévu pour voir comment la caméra allait résister au froid, en effet.
Excellent. Mais moi, j'adorerais voilà, affronter la nature pour aller chercher quelque chose de vrai, qui est comme de l'aventure. Quand on va chercher quelque chose en plein milieu d'une forêt tropicale ou dans des déserts. Je pense que là, on se met soi-même en danger physiquement, plus que aussi artistiquement, et ça peut aller faire des étincelles.
Et puis il y a une incarnation immédiate qui est aussi que quand on est dehors, qu'on doit marcher dans la neige, on s'enfonce jusqu'aux genoux, on doit aller d'un point à un point B et qu'on a froid, en fait le corps du coup se crispe, on fait attention de pas tomber et en fait le personnage est là. Il y a aussi quelque chose qui fait qu'on doit se laisser faire par l'extérieur plutôt que se dire qu'est-ce qu'il pense à ce moment-là mon personnage, est-ce qu'il courberait pas un peu le dos. Non, il faut juste pas tomber. Donc ça c'est pas mal aussi.
C'est vrai, la neige en fond vert ou en IA ne donne pas le nez rouge. Pas encore.
Vous avez eu deux prix, Vigo, Hervé Bazin.
Jean Vigo.
André Bazin et Jean Vigo.
Oui.
Globalement, vous êtes satisfaite de l'accueil du film ?
Oui, je suis très satisfaite parce que le film est né à Cannes, à la quinzaine des cinéastes, et c'était un très bel écrin. On a été très bien entourés, très encouragés. Le film a été très valorisé, et puis on a eu aussi une très belle presse. Donc j'ai eu la chance de pouvoir lire de la belle littérature sur mon film, et j'avoue que c'est tellement vertigineux de montrer son film que ça m'a fait un bien fou, ça m'a donné du courage, c'est très très satisfaisant. Et surtout, on se dit que ça va aider pour la suite, pour en faire un deuxième.
Parce que c'est le premier.
C'est le premier long, ouais.
Incroyable.
Vous étiez aussi à Cannes, tous les deux ?
Oui, on a été aussi à Cannes avec le film Nouvelle Vague. Et moi, j'y allais à l'époque en tant qu'acheteur pour les marchés du film. Donc, je voyais beaucoup de bandes annonces.
T'as vraiment fait tous les métiers.
Non, je suis pas un mytho. Je voyais les gens sur les tapis rouges. Et je me disais, ça doit être super chouette d'aller sur le tapis rouge. Et en fait, quand tu vas sur le tapis rouge, il y a des armées de photographes qui te gueulent dessus comme des chiens, tu vois. Et ça fait vraiment, en fait, tu rentres dans cette arène que j'évoquais tout à l'heure, et tu sais pas encore si les gens vont aimer ou pas ton film. Et en fait, à ce moment-là, il y a un côté où tu dois sourire, mais t'as un peu peur. C'est aussi la montée de la montagne russe avant que ça descende.
C'est un peu comme l'arrivée donc dans la classe en 1899, hein, pour cette jeune institutrice. Je rappelle le titre de votre film, Louise. Moi, j'essaye de faire des enchaînements un peu fous. Pas terrible,
mais
bon,
pas
on se débrouille, allez.
Ouais.
Je rappelle le titre de votre film, Louise et Mon, c'est L'Englouti. J'aurais quand même cité les acteurs Galatea Bellucci, mais aussi Mathieu Lucci et Samuel Kircher, qui sont tous les deux formidables. Guillaume Marbeck, on peut vous voir dans Nouvelle Vague de Rinchagne et Cléta. On peut vous voir tous les deux au César, vous êtes retenu ?
Alors, on ne sait pas encore, mais avec Guillaume, on se voit dimanche au Prix Lumière à l'Institut du Monde Arabe. Et les Césars, on le saura à la fin du mois, à la fin du mois de janvier, si on va à la soirée ou pas. C'est ça, hein ?
C'est ça, je crois.
T'es dans les
révélations. C'est la première fois que je fais tout ça, donc je ne suis pas très bien au courant. Mais je crois qu'on peut voter pour nous, pour qu'on y soit. Ouais. Alors moi, si vous votez,
si je votais, je voterais pour vous, évidemment. J'ai voté pour vous ce soir.
Ah, c'est gentil.
Merci en tout cas à vous deux d'être passés par le studio de Radio Campus Paris. C'était La Relève, préparée, présentée par Christophe. La réalisation était assurée par Pablo. Bonne année, Pablo. Vous pouvez retrouver cette émission et toutes les précédentes sur le site de Radio Campus Paris. Et puis voilà, c'est tout. Nous, on se retrouve dans 15 jours. Bonne soirée.